Ce dimanche, sur RFI.
20 часов в Париже,
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Judith Zheng de la rédaction chinoise pour nous dire comment la campagne électorale à Taïwan tient compte du facteur chinois. Pour la rédaction russe, Denis Strelkov, à propos de la fermeture de la frontière entre la Finlande et la Russie à cause de la crise migratoire provoquée par le Kremlin. Et Nasser et Temadi de la rédaction persane, concernant l'expulsion d'un demi-million d'Afghans par le gouvernement iranien. Ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui, c'est la libération d'un certain nombre d'otages par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens détenus jusque-là en Israël. Le tout accompagné de 4 jours de trêve dans les combats qui offrent un répit aux habitants de la bande de Gaza, assiégés, bombardés depuis le 7 octobre par l'armée israélienne. Des Israéliens ont donc retrouvé la liberté, ainsi que des Thaïlandais et un Philippin. Denis Strelkov, la Russie multiplie également ses efforts pour que des Russes soient libérés par le Hamas. Ils seraient donc entre 2 et 8, selon les sources. Jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas été libérés, malgré les liens étroits qu'entretient le Kremlin avec l'organisation qui contrôle la bande de Gaza.
Oui, effectivement, il est difficile de trouver des informations concernant les otages de nationalité russe, car le Kremlin a choisi de ne pas beaucoup communiquer sur ce sujet. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du président russe, les diplomates sont en contact avec le Hamas, mais les détails de ces échanges restent pour l'instant inconnus. On sait toutefois que le gouvernement russe a discuté de cette question avec les représentants du Hamas à Moscou, quelques semaines après l'attaque du 7 octobre. Une délégation du Hamas s'est rendue dans la capitale russe, à Moscou, officiellement pour discuter de la libération des otages étrangères et de l'évacuation des Russes bloqués dans la bande de Gaza. L'évacuation a eu lieu, mais depuis, aucune nouvelle n'a filtré concernant les otages. Il faut aussi dire que cette visite s'inscrivait tout à fait dans la logique de soutien du Hamas par le Kremlin.
Il faut souligner que le Hamas n'est pas reconnu comme une organisation terroriste en Russie, contrairement à certains groupes tels que les talibans.
Oui, même tout le contraire, c'est un interlocuteur légitime et aussi de point de vue légal, rien n'empêche le maintien d'un lien de haut niveau avec le représentant du Hamas. En 2006, Vladimir Poutine a par ailleurs même affirmé que les élections remportées par l'organisation étaient légitimes. Le Hamas, de son côté, a apporté son soutien à la Russie lors de son invasion en Ukraine. Il expliquait que Moscou a cette volonté de créer un monde multipolaire, donc ce qui convient tout à fait au Hamas. La politique étrangère très controversée, la Russie cherche des alliés et l'Iran, qui entretient des liens étroits avec le Hamas, est l'un des partenaires et l'un des amis, selon plusieurs sources. L'Iran aide à la Russie en fournissant des drones militaires et c'est également en Iran que les avions de ligne russes sont souvent réparés, entretenus. C'est très important pour Moscou. Donc il est crucial de ne pas perdre le soutien de Téhéran, expliquant en partie l'amitié entre Moscou et le Hamas.
Vous y souscrivez, bien évidemment, Nasser et Temadi, à ce qui vient d'être dit. On vous retrouve dans quelques instants. Avant cela, Denis, Israël, il faut le savoir, entretient des relations particulières avec Moscou, notamment a refusé de livrer des armes à l'Ukraine. Alors, quel regard la Russie porte-t-elle sur cette guerre entre Israël et le Hamas
En Russie, il existe différents points de vue sur la situation actuelle. Les autorités, eux, sont plutôt pour un cessez-le-feu immédiat, c'est-à-dire que les médias d'État, de la propagande, mettent l'accent sur la crise humanitaire dans la bande de Gaza, parlant très peu de l'attaque du Hamas. Certains expriment même des doutes sur la réalité des horreurs, des atrocités du 7 octobre. Un autre exemple, un chroniqueur de l'agence d'État russe, donc RIA Novosti, c'est une agence de propagande, Ilya Strelnikov, affirme que quel que soit le cas, Israël va perdre cette guerre, car pour remporter la victoire, il faudrait détruire le monde arabe. Donc c'est assez fort pour la presse russe qui exprime son soutien total au Hamas. Dans le sud de la Russie, en particulier dans les régions de Daghestan, l'antisémitisme demeure un problème majeur, comme en témoigne une attaque de foule à l'aéroport où des centaines de personnes ont protesté contre l'arrivée d'un avion transportant des juifs depuis l'Israël. Donc c'était la version officielle des manifestants. En outre, il y a ceux qui ont quitté la Russie et qui vivent en Israël tout en maintenant des liens avec la Russie, parfois en travaillant pour des médias en exil. Pour eux, la guerre est vécue comme une tragédie personnelle et beaucoup beaucoup, sont prêts à aller même sur le front pour se battre contre le Hamas.
Nasser Etemadi, dans une interview diffusée en direct avant-hier soir par la télévision d'État, le président iranien a qualifié, tout en le soutenant, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il a parlé d'une grande victoire, Ibrahim Raisi, pour les Palestiniens et pour le Hamas. Il a ensuite affirmé qu'Israël est un ennemi vaincu qui n'a pas atteint ses objectifs dans la guerre qu'il oppose actuellement au Hamas. Est-ce qu'il est le seul à tenir de tels propos ?
Non, en fait, c'est un discours quasi majoritaire au sein de l'establishment iranien. Les mêmes propos ont été tenus quelques heures plus tard par un commandant de gardiens de la Révolution, Hamid Reza Moradanfar, que les médias officiels en Iran désignent généralement comme expert des questions stratégiques. D'après Moradanfar, Israël a accepté le cessez-le-feu tout simplement car elle s'est enlisée sur le terrain militaire dans la guerre qui l'oppose à un masque au Gaza. Selon le commandant des gardiens de la Révolution, Israël était la malade en phase terminale, vit ces derniers jours et l'acceptation du cessez-le-feu de sa part est en elle-même l'aveu et le signe annonciateur de son échec.
Alors tout laisse à croire que le gouvernement iranien a besoin de présenter le cessez-le-feu comme un échec d'Israël et comme un signe flagrant de sa vulnérabilité.
Exactement. Mais pour le prouver, le gouvernement iranien a surtout besoin que le cessez-le-feu, ce soi-disant échec d'après les autorités iraniennes, soit pérenne et permanent. C'est que Téhéran sait parfaitement qu'une guerre de longue durée au Gaza finira par permettre finalement à Israël de réaliser son objectif principal, à savoir le démantèlement, pour être simple, du Hamas et du djihad islamique dans tous les territoires palestiniens et non seulement au Gaza. Ce n'est donc pas un hasard si le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, dans une interview accordée à la chaîne du Hezbollah, Al-Maidan, Al-Mayadin, a repris son refrain en disant que sans un cessez-le-feu pérenne et durable entre Israël et Hamas, la guerre au Gaza serait régional, sinon mondial.
Autrement dit,
cela veut dire tout simplement, dans le jargon du gouvernement iranien, que l'État de Téhéran n'aurait alors d'autre option que d'ouvrir, en s'y engageant peut-être même directement cette fois-ci, d'autres fronts de confrontation contre Israël, via notamment le Hezbollah libanais, les Houthis yéménites et la force Quds, c'est-à-dire la branche extérieure des gardiens de la Révolution, bien installée en Syrie depuis 2011.
Donc il faut comprendre que le risque d'une guerre totale est bien réel.
Il est réel, il est grand, car après ce qui se passait le 7 octobre et une guerre qui s'en est suivie au Gaza et qui continue toujours, on ne sait pas jusqu'à quand, on ne voit pas, je ne vois pas personnellement comment Israël peut se permettre le luxe de laisser le Hamas de se reconstituer et de revenir non pas seulement au Gaza mais dans tous les territoires palestiniens tel un héros qui a pu mettre à pas toute la force de la dissuasion militaire et sécuritaire d'Israël. C'est cette victoire-là dont parlent le guide iranien et toutes les autorités de Téhéran et que le régime islamique de Téhéran veut partager, sinon s'attribuer, dans le monde arabe et musulman. Inutile de dire qu'un tel scénario n'est pas une option pour Israël. Du reste, dans un monde sorti de ses gondes, comme disait jadis Jacques Derrida, la réalisation d'un tel scénario serait une victoire inespérée pour l'islamisme radical, toutes tendances confondues, depuis la région du Proche-Orient jusqu'en Europe, où on voit bien l'extrême droite occupe depuis quelque temps le devant de la scène politique en exploitant la crainte généralisée de la violence et du terrorisme islamiste mêlée à l'envie à la question de l'immigration.
Encore une question, Nasser. Qu'en est-il du côté iranien ?
Du côté iranien, le risque est également majeur. Le risque d'une guerre régionale est important car le régime iranien ne peut accepter la défaite du Hamas face à Israël. Une telle défaite pour le gouvernement iranien serait le début de sa propre fin. Elle reviendrait à lui retirer sa position et toute sa raison d'être dans la région. Dans un tel cas, quel serait, après tout, le gouvernement islamique bâti dès sa naissance sur le fantasme de l'exportation de la révolution islamique via notamment des groupes puissants paramilitaires comme le Hamas, le Hezbollah, le Ashtol Shaabi en Irak et les Houthis au Yémen.
Judy Cheng, la Chine n'est pas un acteur traditionnel dans cette région, dans ce Proche-Orient. Quelles sont ses réactions à cet accord de trêve qui est donc entré en vigueur ce matin ?
Oui, effectivement, la Chine n'est pas un acteur traditionnel de la région. Mais d'un côté, depuis une vingtaine d'années, la Chine a bien renforcé ses relations avec l'Israël, surtout sur le plan économique et commercial. Et de l'autre côté, traditionnellement, la Chine a toujours soutenu la cause palestinienne, que ce soit par l'idéologie de soutenir les peuples opprimés ou par son besoin de soutenir les pays du Sud global dans sa nouvelle ambition internationale. Global face à l'Occident, face aux États-Unis plus particulièrement. La Chine a ainsi salué dès les premières heures l'aboutissement de cet accord, tout en souhaitant qu'il permette d'apaiser la crise humanitaire, contribuera à la désescalade et réduire les tensions, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères le 22 novembre.
Alors il faut dire que l'accueil réservé à cet accord finalement correspond à la position assez pro-palestinienne du gouvernement chinois depuis le début du conflit, depuis le 7 octobre.
Tout à fait. Quand l'attaque surprise de Hamas le 7 octobre a déclenché une levée de boucliers dans l'opinion publique internationale et surtout en Occident, la Chine a pris des jours avant de condamner l'agression contre la population civile, d'ailleurs sans jamais nommer clairement le Hamas. Et le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a appelé son homologue israélien seulement le 23 octobre. Mais on peut dire aussi que le temps a joué en faveur de cette prise de position chinoise, car la situation humanitaire à Gaza est devenue tellement intenable, suscite dans le monde entier un mouvement de sympathie en faveur des Palestiniens.
Quant à la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, elle est aujourd'hui à Pékin. Le conflit Israël-Hamas semble se trouver au cœur de ses entretiens avec ses homologues chinois. Quel rôle la Chine pourrait-elle jouer dans ce conflit ?
Il faut dire que depuis quelques années, la Chine a considérablement renforcé sa présence et développé des relations avec les pays du Moyen-Orient, non seulement sur les plans économiques et commerciaux, puisque la Chine est le premier partenaire commercial pour plusieurs pays de la région, mais aussi sur le plan politique. Surtout, la Chine a signé aussi un partenariat de 25 ans avec l'Iran, un des acteurs importants dans le conflit du Moyen-Orient et particulièrement dans cette guerre Israël-Hamas. L'Iran est devenu aussi officiellement un pays membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, où la Chine occupe une place prépondérante. Donc la France ne s'y trompe pas en envoyant sa ministre des Affaires étrangères à Pékin. D'après une source diplomatique citée par l'AFP, pour la France, la Chine est un acteur qui pèse plus qu'avant dans la région, en raison notamment de sa relation importante, forte, avec l'Iran.
Mais est-ce qu'elle peut réellement jouer un rôle là-dedans ?
Alors là, c'est difficile à dire, parce que déjà en mai 2021, la Chine a tenté de jouer le rôle de médiateur entre les Israéliens et les Palestiniens, mais sans grand succès. Depuis le début de ce nouveau conflit, la Chine a nommé un envoyé spécial en la personne de l'ancien ambassadeur de Chine en France, Jaitun, pour tenter d'y apporter une solution. Mais pour l'instant, tel qu'on voit, c'est surtout Qatar qui a joué un rôle primordial aux côtés des États-Unis et de l'Égypte. Donc, bien qu'une délégation de hauts diplomates sont allés à Pékin ces derniers jours et ont rencontré le ministre des Affaires étrangères chinois pour entendre un discours plutôt très équilibré, mais la convocation d'un sommet extraordinaire virtuel des pays BRICS le 21 novembre pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des détenus civils, juste avant l'aboutissement d'un accord pour une trêve, montre d'un certain point de vue le peu de points d'appui dont la Chine dispose, en tout cas à l'heure actuelle, pour y faire la pluie ou le beau temps. Mais son poids économique et politique lui permet au moins de jouer un rôle de facilitateur.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette trêve et cet échange prisonnier contre otage qui a lieu en ce moment même, à l'instant même. Une ONG palestinienne affirme que ce sont 39 Palestiniens qui viennent d'être libérés de prison israélienne. Et de l'autre côté, que ce sont 13 otages israéliens qui ont été libérés, dont 4 enfants et 6 femmes âgées. Édition spéciale dans une demi-heure, justement, concernant ce qui se passe au Proche-Orient. Ce sera donc dans RFI Soir.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Avec la guerre en Ukraine, ils sont nombreux à vouloir quitter la Russie pour ne pas servir dans l'armée et se faire tuer sur le front. La plupart des points de passage entre la Russie et la Finlande, pour autant, sont désormais fermés. Décision prise par les autorités finlandaises et qui provoque une crise entre Moscou et Helsinki, alimentée par l'afflux de migrants venant du Proche et du Moyen-Orient, en plus de cela. La Finlande accuse le Kremlin d'avoir envoyé ces migrants dans le but de punir ce pays pour ses choix politiques. Denis Strelkov, dites-nous en plus.
Il faut désormais parcourir 1000 km de plus pour rejoindre Helsinki depuis Saint-Pétersbourg. Assez écologique. Et le risque d'une fermeture totale de la frontière entre la Russie et la Finlande est également évoqué. Les Russes qui ont vécu dans l'URSS lorsque les frontières étaient fermées pour la plupart des citoyens ordinaires n'auraient jamais pensé à revoir une telle situation, considérant cela comme un signe que la Russie s'isole de plus en plus. En Estonie, en Norvège, des pays qui ont aussi la frontière terrestre avec la Russie, des voix s'élèvent pour suivre les décisions de Helsinki, encore un signe de retour à la politique d'un rideau de fer. Tout a commencé il y a une semaine lorsque la Finlande a officiellement évoqué une guerre hybride menée par la Russie. Selon les gardes frontières finlandais, le nombre de migrants arrivant dans le pays a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s'agit principalement d'Irakiens, des Syriens, des Turcs et de Somaliens.
Alors on a vu les images hein, pour atteindre la Finlande et déposer une demande d'asile. Ces gens utilisent des vélos flambant neuf ou encore des trottinettes électriques.
Oui, ce choix s'explique facilement car il est interdit de traverser la frontière à pied et ce moyen de transport sont les moins coûteux, même si on peut dire qu'il fait assez froid à la frontière, donc c'est très peu pratique. Le nombre de demandeurs d'asile attend désormais des dizaines par jour. Auparavant, leur nombre ne dépasse pas une douzaine par mois, ce qui représente une augmentation remarquable que Helsinki considère comme bien plus qu'une simple coïncidence. De plus, une partie de ces personnes arrive avec un visa valable pour entrer sans visa valable pour entrer dans l'Union européenne. Jusque ce mois de décembre, ce sont les gardes frontières russes qui empêchaient le passage des personnes dans une telle situation.
Alors du côté de la Finlande, on évoque une instrumentalisation des migrants par la Russie. Est-ce qu'on a une idée de comment le Kremlin aurait pu mener une telle opération ?
Tout d'abord, le Kremlin nie son implication et déplore un choix politique inamical, voire russophobe de la part de la Finlande. Des journalistes se sont également inquiétés sur cet afflux de migrants et n'ont pas trouvé de lien direct avec les autorités fédérales russes. Cependant, plusieurs indices nous montrent que, c'est le moins qu'on puisse dire, le gouvernement laisse faire ceux qui organisent cette vague d'immigration sans intervenir pour l'empêcher. Les voyages pour demander l'asile en Finlande, entre guillemets, coûtent entre 3 et 5 000 euros, on peut en trouver plus cher ou moins cher, sont proposés en ligne sur les réseaux sociaux. Cela peut inclure ou non l'hôtel, les vols, l'aide pour obtenir le visa pour la Russie. On peut également trouver des gens qui proposent les déplacements entre Moscou et Saint-Pétersbourg ou encore Minsk jusqu'à la frontière. Et sur TikTok, les vidéos explicatives en arabe sur la traversée de la frontière circulent en grand nombre. Les questions qui se posent, mais qui organise ça? Une grande partie de ces entreprises est basée en Turquie, mais en Russie, leurs activités sont également très bien organisées. Par exemple, les vélos étaient distribués juste avant le point de passage de la frontière, avec sous les yeux des gardes frontières.
Alors donc du coup, on est sûr que le Kremlin est impliqué ?
La police et la frontière russe ont plusieurs témoignages laissés passer dans les zones soumises à différentes restrictions d'accès des migrants qui n'avaient pas de papiers nécessaires. Un cas inédit pour les locaux qui ne peuvent pas accéder à la frontière sans avoir un visa. Dans une ville à côté de la frontière, un centre d'accueil temporaire chauffé a été également installé par les autorités municipales, vu les températures très basses à la frontière, bien en dessous de zéro. Tout cela pour dire qu'on peut être au moins sûr que cette situation arrange les autorités russes. Cela rappelle d'autres cas quand les migrants étaient instrumentalisés par la Biélorussie, notamment en 2020, des milliers de personnes ont pris d'assaut la frontière avec l'Union européenne située suite aux sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko. À l'époque, c'était organisé à un très haut niveau avec des vols spéciaux pour transporter des migrants jusqu'au Minsk.
Alors supposons que ce soit la Russie qui soit derrière tout cela. Denis, oui. Bah dites-nous.
L'une des versions les plus crédibles avancées par les autorités finlandaises est de punir le pays à cause de ses choix politiques, notamment l'adhésion à l'OTAN. Ou encore, un accord possible sur la défense qui permettrait aux États-Unis d'y déployer des troupes. C'est un sujet qui est très sensible pour Moscou, car la Finlande a une frontière de 1200 km. Les deux pays ont déjà fait la guerre il y a 80 ans. Et le but officiel de la politique étrangère russe était justement d'éloigner l'OTAN de son territoire. Et pour l'instant, c'est tout le contraire qui est se passe après l'invasion en Ukraine, même si la Russie ne peut pas faire grand-chose pour inverser les situations.
Denis Strelkov de la rédaction russe de Radio France Internationale. À Taïwan, il y aura des élections le 13 janvier prochain. Plusieurs scrutins organisés ce jour-là, présidentielles et législatives. Et à 50 jours des votes, il y a le dépôt et l'enregistrement des candidatures. Judith Zheng de la rédaction chinoise. On connaît donc déjà les candidats qui veulent succéder à l'actuelle présidente taïwanaise.
Oui, enfin, je veux dire qu'il était temps. Il faut dire qu'avant que la vraie campagne électorale commence, les électeurs taïwanais ainsi que les observateurs étrangers ont dû assister à un feuilleton incroyable du choix de candidats dans le camp d'opposition. Si le Parti démocrate progressiste, c'est le parti au pouvoir depuis plus de 7 ans, qui a confirmé depuis plusieurs mois leur candidature du vice-président actuel, Lai Ching-te. Le suspense de qui serait son ou ses challengers dans le camp d'opposition a été maintenu presque jusqu'à la dernière minute de la clôture du bureau de dépôt de la candidature. Bien que selon les sondages, une bonne partie de l'opinion publique semble souhaiter une alternance politique après les deux mandats de la présidente Tsai Ing-wen du parti DPP, de rebondissement en rebondissement, les deux principaux partis d'opposition ont déballé en public leur incapacité totale de constituer une alliance. Alors les tractions ont continué jusqu'à hier après-midi, à moins de 24 heures de la clôture de l'enregistrement des candidatures.
Dites-nous en plus sur ce qui se passe donc du côté de l'opposition, Judith.
Finalement, ces deux partis d'opposition, c'est-à-dire le grand parti traditionnel Kuomintang et le parti créé il y a 4 ans, c'est le parti du peuple taïwanais, sont allés enregistrer chacun de leur côté leur candidature ce matin, quelques heures juste avant la clôture du bureau d'enregistrement. On sait au moins maintenant qu'il y aura 3 tandem le 13 janvier prochain pour la présidentielle. Il y a le ticket du parti au pouvoir, considéré comme pro-indépendance, va faire face au ticket du plus grand parti d'opposition, Kuomintang, son candidat en la personne de Hou Youyi, et celui du TPP en la personne de Ko Wen-je, qui est aussi son président, le président de ce parti. Alors ces deux partis sont considérés comme davantage pro-Pékin. Il faut souligner que sur l'éventail politique taïwanais, les partis ne sont pas les différences entre les partis ne sont pas gauche ou droite comme en Occident, mais plutôt pro-Pékin ou pro-indépendance.
La Chine semble être au cœur de ces élections à Taïwan. D'ailleurs, avant que les débats électoraux ne commencent, cette question suscite déjà des polémiques, par exemple à travers la participation politique des nouveaux résidents venus de la Chine continentale.
Tout à fait. Une polémique s'est emballée il y a quelques semaines suite aux rumeurs sur la présence de nouveaux résidents venus de la Chine continentale comme candidat législatif, d'abord au parti du peuple taïwanais, puis au parti Kuomintang. Ces rumeurs ont éveillé chez certains le soupçon d'une éventuelle ingérence du parti communiste chinois, qui considère l'île de Taïwan comme une partie intégrante de la Chine populaire. Et ces nouveaux résidents venus de l'autre côté du détroit sont ainsi entraînés dans une position assez délicate dans un débat politique malgré eux.
Alors, qui parle et que dit-il ?
Alors, la personne qui parle, c'est Zola, qui est un Chinois installé à Taïwan depuis maintenant 12 ans. Il explique que les nouveaux résidents venus de la Chine continentale représentent une population de 380 000 personnes, représentent donc un réservoir de vote, de voix potentielle. Mais c'est aussi une population plus perméable aux pressions chinoises. Il a cité deux exemples. exemple, une qui est une blogueuse d'origine du continent qui avait pris des paroles, qui était intervenue il y a un certain temps lors d'un meeting du parti TPP, considéré comme indépendantiste aux yeux de Pékin. Et puis un autre, c'est un éditeur né en Chine, mais puis installé à Taïwan, qui publie des livres qui n'est pas au goût de Pékin. Donc il a été retenu à Shanghai depuis plusieurs mois. Alors pour tout ceci, pour dire que ces nouveaux résidents, en raison de leurs liens familiaux en Chine, préfèrent ainsi faire le profil bas pour ne pas créer des ennuis à leur famille. Et la blogueuse Shang Guanluan, qui est aussi un YouTuber, émigré à Taïwan par le mariage il y a quelques années, nous explique que ceci n'est pas la première fois en raison des tensions entre les deux rives.
Que vous a-t-elle dit ?
Oui, elle explique que c'est tout comme les résidents russes qui se trouvent sur le territoire ukrainien. Eux, ils sont dans une situation délicate aux yeux des Ukrainiens pendant cette guerre avec la Russie. Alors, les tensions très fortes en ce moment entre la Chine continentale et Taïwan font que ces nouveaux résidents chinois deviennent facilement l'objet de soupçons de jouer le jeu de Pékin. Donc, à chaque élection, ils sont susceptibles de devenir la cible des critiques, des polémiques. Mais elle explique aussi que c'est aussi en raison du système démocratique de Taïwan que cette ce genre de polémique existe, parce que dans une démocratie, on ne doit pas priver un groupe de résidents de leur droit de participer, de participation politique. Mais en même temps, une démocratie est aussi plus vulnérable aux intentions d'interférence.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette préparation de ce double scrutin qui aura lieu à Taïwan le 13 janvier 2024. C'était Judith Gang de la rédaction chinoise de RFI. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe en Iran. Les autorités de Téhéran confirment qu'au cours des trois derniers mois, elles ont renvoyé vers leur pays d'origine, l'Afghanistan, près d'un demi-million de réfugiés. Nasser Etemadi de la rédaction persane, ces hommes, ces femmes, ces enfants avaient fui le régime des talibans après leur retour au pouvoir.
Bien sûr, et l'organisation de l'immigration, le gouvernement iranien a tenu de souligner que ce retour massif des réfugiés afghans dans leur pays a été volontaire. Téhéran soutient que n'ont été expulsés cependant que les Afghans en situation irrégulière, mais difficile de croire une telle affirmation dans la mesure où plus de 4 millions d'Afghans vivant en Iran depuis l'invasion soviétique de l'Afghanistan jusqu'à nos jours se trouvent pour la plupart dans une précarité et une irrégularité délibérément voulue par Téhéran et imposée en permanence aux réfugiés afghans. L'expulsion massive des réfugiés afghans a coïncidé cependant avec le voyage récent d'une autre délégation des talibans en Iran à l'initiative du gouvernement iranien lui-même, où les deux parties ont parlé de coopération économique, même si l'Iran ne reconnaît pas encore officiellement le régime des talibans, et où également a été évoqué en sourdine l'expulsion des réfugiés afghans de l'Iran, laquelle risque de poser de graves ennuis aux talibans.
Est-ce qu'on peut parler de paradoxe ?
Ce qui s'apparente à un paradoxe, c'est en vérité un bras de fer qui oppose l'Iran aux talibans autour de droits qui permettent à l'Iran de s'alimenter de Helmand, rivière qui vient de l'Afghanistan et qui verse au lac de Hormuz, commun entre les deux pays et qui permet surtout aux régions arides de Sistan et Baloutchestan en Iran de rester tout simplement en vie. Sans l'eau de Helmand, cette vaste région sunnite et rebelle en République islamique ne pourrait pas vivre, tout simplement.
Que veulent exactement les talibans ?
Les talibans veulent l'énergie facile que l'Iran possède en abondance. Ils veulent surtout un accès direct au port iranien sur la mer d'Oman, qui donnerait aux talibans, enclavés de toutes parts, accès rapide et sûr aux eaux et commerces internationaux, en contournant le Pakistan, lequel vient à son tour d'expulser massivement les réfugiés afghans vers leur pays. Or, dans ce bras de fer, chacun a son propre levier. Le de Helmand aux mains des talibans et les réfugiés afghans aux mains des Iraniens.
Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur cette situation et cette expulsion d'un demi-million, hein, 500 000 personnes qui ont donc été, qui sont donc rentrées chez elles. C'était Nasser et Temedi, la rédaction persane de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, réalisé ce soir par Jean-Philippe Thury. Accent du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.